as-tu donné pour le Tipeee de la cellule ?
Non, j'ai oublié ! Ce n'est pas vrai ! C'est impossible !
Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, nous allons tester un jeu extraordinaire. C'est notre ami Vincent qui vient avec ce jeu dans sa besace. Il s'agit de Unknown Armies. C'est un jeu du 7e cercle, si je ne m'abuse.
Oui.
Nous sommes avec Emmanuel.
Salut.
Nous sommes avec François.
Salut.
Nous sommes avec Yosei.
Coucou.
Et donc Vincent qui va nous présenter le jeu. Vincent, de quoi qu'il s'agit que Unknown Armies ?
De l'occulte contemporain.
De l'occulte contemporain.
Un petit peu barré. Il faut
d'accord,
bien le dire.
D'accord. Unknown Armies, c'est pas le nom commun du petit, ce qu'on appelle le petit peuple en français, c'est-à-dire les fées, les.
Alors écoute, je dois t'avouer, je n'en sais absolument rien.
D'accord, ok.
Je sais que c'est probablement lié à ça.
D'accord, ouais. Ces petits êtres, les petits lutins, les trucs qu'on ne voit pas et qui peuplent, comme les yokai au Japon par exemple, je connais un peu mieux ce vocable-là. Voilà, non, ça n'a rien à voir avec ça. D'accord, alors, très bien.
Voilà,
je prends un vent, ça me va bien.
Clairement, je suis pas un expert du jeu. Je l'ai ramené pour le tester.
D'accord.
Le faire tester.
Mais pourquoi ce jeu-là ? Est-ce que tu l'avais dans ta bibliothèque ? Tu dis, tiens.
Alors, je l'avais dans ma bibliothèque et j'ai entendu un certain Romaric Briand au cours d'un podcast dire qu'un jour, il faudrait faire un playtest.
Ah bah voilà.
Un one-shot et je me suis dit, bah...
C'est parti, quoi.
Voilà,
okay.
On va le faire.
Ouais. Faut écouter cet homme-là, il est intéressant. Il y a de bons conseils. Alors donc, de quoi qu'il s'agit ?
Je vais vous lire un petit texte qui explique l'ambiance. Bienvenue dans l'Underground. Il se passe quelque chose en dessous. Sous le reflet terrestre du paradis, sous le monde de nos désirs, il y a des rues. Des rues en secret. Des rues qui relient les arrière-cours de notre civilisation au terrain vague puant d'urine du cosmos. Des rues qui plongent tout droit dans l'Underground. Visionnaires obsédés, dégénérés mystiques, délinquants bardés de diplômes, païens déchus, érudits renégats, dealer hermaphrodite, vétéran de l'armée au penchant franc-maçon.
Ah bah tiens, ah bah voilà.
Ah voilà, et l'explication voilà, est donnée.
Ça. Il a vu franc-maçon truc, il s'est dit c'est bon, c'est pour moi.
Habitant des égouts, adorateur de boîtes en carton, confrérie occulte d'employés d'épicerie, disciple de James Dean, terroriste holiste, animateur de télé-réalité, autiste extra-lucide, adepte du zapping sur la chaîne tantrique. Partisan de la théorie du suicide de JFK.
Ça, c'est moi.
Dans l'Underground, personne n'est ordinaire. Il y a ces enfants élevés comme des divinités, ces acteurs qui refusent d'être vus ou entendus, ces types qui parlent le langage des chats, ce gamin du cours élémentaire qui s'est dévoré le pouce, ces vieilles âmes réincarnées dans des corps d'enfants, ces types qui croient que l'homme n'est jamais allé sur la Lune, ces types qui croient qu'ils sont la Lune. Le monde ordinaire peut bien aller se faire foutre.
Excellent. Ok, ça m'a l'air bien barré. Au départ, quand t'as dit rue et dans le rêve, j'ai pensé tout de suite parce que 7ème cercle c'est aussi l'éditeur de Culte. Je sais pas si.
Tout à fait.
Ouais. Et donc ça fait penser à ça, tu vois, c'est l'espèce de rue vers lesquelles on arrive dans un monde un peu.
Oui, mais en fait, y a un petit peu de ça, mais on est très loin de Culte quand même.
Non. Ça a l'air vraiment barré, quoi. Vraiment.
Il y a beaucoup d'humour et de l'humour dark.
Donc ça a été rédigé par le Joker de Batman, c'est ça ? C'est lui qui a écrit ça ?
Non, du tout.
C'est, du tout.
Ça a été écrit par John Tins et Greg Stolz.
D'accord.
Que je ne connais pas.
Donc c'est une traduction, j'imagine.
C'est une traduction de 7ème cercle. La traduction a été faite par Julien Blondel.
D'accord, bah oui. Très bien, entendu.
Voilà, on est sur du jeu de rôle classique.
Très bien. Et j'allais justement te demander, est-ce que tu pourrais nous parler effectivement du système donc classique ? Est-ce qu'il y a quelques petites choses au niveau de l'autorité qui peuvent être... Non, c'est vraiment du jeu de rôle traditionnel.
Oui, c'est vraiment du jeu de rôle tradi.
Très bien. Parce que moi, quand j'y avais joué... Il y avait un peu de méta et parfois du coup c'était au joueur de décrire certaines de ses folies ou ce genre de choses. Là c'était pas dans la base.
Oui, mais c'est vraiment du ponctuel.
D'accord.
Et okay. A priori ça n'arrive pas dans un scénar de base.
D'accord, ok. Et donc du coup quel est le système de résolution ?
Le système de résolution, c'est un système au dessin. On a quatre caractéristiques dont dépendent des compétences.
D'accord.
Et on jette, il faut faire moins que la compétence pour réussir. Deux petites subtilités, les critiques sont des doubles. Donc si, tant qu'on est en dessous de la compétence, un double c'est une réussite critique. Au-dessus de la compétence, c'est un échec critique. Et les compétences obsessionnelles qui, si elles sont choisies, permettent d'utiliser le flip-flop qui vous permet de switcher les deux dés. C'est-à-dire que si vous faites 29, vous pouvez faire 92.
Ah, c'est excellent, c'est une mécanique qu'on retrouvera dans... De quoi ? Tu voulais dire quelque chose, Yosai ?
Vas-y. Je disais, c'est super utile comme pour les gens comme moi qui ont l'habitude de faire entre 90 et 95 tout le temps.
Parce que tu peux inverser 0,9, c'est bien, 59, ça va. Et ça me fait penser à Chin. Dans Chin, donc il y a aussi un jeu du 7e cercle. Il y avait le Yin et le Yang, tu te souviens ? Non, François, tu veux prendre le micro ?
Je disais oui, c'est vrai.
T'as joué à Chin aussi,
effectivement. Ouais. Ouais.
Et donc, du coup, il y avait des pouvoirs comme ça qui permettaient d'inverser le yin et le yang.
Il y a un des blancs et un des noirs aussi, traditionnellement dans le Chin, qui représentent donc aussi le yin et yang, et on peut inverser des valeurs. Et...
Exactement.
Je n'ai pas joué énormément, mais.
Moi, c'est un jeu du 7e cercle qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Il faudra faire un podcast là-dessus.
Je ne l'ai pas. Autre subtilité, c'est un jeu qui utilise des compétences, mais qui ne possède pas de liste de compétences.
D'accord.
C'est au joueur, à la création, de définir ses compétences.
Ah, c'est tellement bien ça.
Ainsi que trois...
Tu les choisis dans une liste quand même ou non,
tu
crées tes compétences
toi-même. Tu as des compétences qui sont communes à tout le monde, qui sont gratuites, et sinon les compétences, tu les inventes.
D'accord, ça c'est vachement bien.
Sachant qu'une compétence ne représente pas une compétence comme dans des jeux tradis classiques comme Warhammer par exemple ou comme l'Appel de Cthulhu.
D'accord, ouais.
Clairement, on ne fait un jet que quand on est dans une situation de stress. Et un jet réussi dans une situation de stress, c'est compliqué. Et réellement, réussir une action quand on n'est pas un archi spécialiste. On a beau être un militaire, quand on est confronté à un monstre ou à de l'étrange ou quoi, réussir à viser, c'est très très compliqué.
En gros, on sera souvent en situation de stress extrême. Et du coup, est-ce que ça favorise pas quand même d'entrée de jeu à la création de personnages et plutôt les choses liées au combat ou à des situations de panique ?
Pas du tout, parce que le combat est extrêmement mortel. Un coup de feu a 50% de chance de tuer un joueur.
D'accord.
Voilà.
Ok, on verra bien. Yosei ?
Je dis ça reprend un peu la... Pas le système, mais disons l'optique de Cthulhu. Quand tu vois un monstre, il vaut mieux se barrer, en fait, tout simplement.
Oui, sauf que là, tu vois pas de monstre, a priori. Tu vois juste quelqu'un de tout à fait normal qui te fait un grand sourire.
Ouais.
Et qui a un flingue.
Oui, ça a été écrit par Joker.
Et juste après, tu meurs, c'est ça.
Ça dépend.
Déjà,
ça dépend
moi,
de ce que tu vas lui offrir.
Avant de mourir, je préfère voir un sourire, tant qu'à faire. Hein.
D'accord, ok, très bien. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur le système de résolution ?
Oui, une petite subtilité, il y a le joueur détermine trois stimuli à la création, qui sont un stimuli de rage, de peur et de noblesse.
Rage, peur, noblesse.
Et ça lui permet Déception. De réagir en fonction, quand il est dans cette situation, il y a des réactions un petit peu spéciales.
Ah, d'accord,
que j'expliquerai un peu plus tard.
D'accord, ok. Très bien. C'est parti ?
C'est parti.
Vous jouez, on y va, c'est parti, on joue. À tout à l'heure. Fin de la partie de Non Armies. Ils sont déjà tous en train de faire le podcast avant le podcast. Ils m'énervent, donc j'ai lancé
rapidement.
Non,
allez, c'est parti.
Parce que là, c'est pas ce qui vous arrive. Là, vous êtes complètement déchaînés, unleashed. Alors, donc, il paraît que Yosei n'a pas du tout parlé. Alors là...
Tellement que je vais même pas lui donner le micro parce qu'elle est insupportable. Bonsoir.
Donc, tu n'as pas du tout parlé, Yosei, pendant ce scénar.
Si, forcément, mais pas assez pour moi, j'avoue.
D'accord, ok. Okay.
Pour Emmanuel. Ma part, j'ai plein le MJ parce que la quantité de HRP de mes deux acolytes alcooliques, c'était une horreur.
Je vois pas de quoi tu veux parler. Du tout.
Ok, donc c'est ça, une non-armise, alors. C'est une table de PJ bourrée qui...
Non, les PJ étaient très bien, c'est les joueurs.
Les PJ sont pas bourrés, mais comment dire ?
Vincent ?
Je...
Quelqu'un alors... pour sauver ce podcast ?
J'ai quand même pris un engagement auprès de mes joueurs.
Vincent ?
Je pense qu'on a des choses à dire sur ce jeu.
Oui.
D'accord.
Et il y a quand même Juste une chose, on mettra une balise spoil parce que c'est le scénar du livre.
D'accord, ouais, très bien.
Et que si des gens veulent le jouer, c'est un scénar assez particulier en plus d'intro, on y reviendra.
Ah là, ouais. Ça, je te remercie vraiment Vincent de nous avoir fait le scénar du livre parce que sur les jeux de rôle classiques qui sont testés à la barreau, notamment One Shot, très souvent on commet l'erreur de faire des scénars de notre cru en fait, et du coup on ne teste pas vraiment le jeu tel qu'il est édité. C'est par exemple une erreur qui avait été faite avec le jeu de rôle Sombre où on avait testé un scénario en fait qui n'appartenait pas au jeu, et donc du coup on nous avait reproché à ce moment-là de ne pas vraiment avoir testé le jeu puisque on n'avait pas testé le scénario de la base. Donc je te remercie Vincent d'avoir fait tester, là cette fois-ci tu as vraiment fait tester le jeu tel qu'il doit être testé avec sa campagne, et c'est très bien, voilà. Donc là c'est vraiment le jeu de la campagne de la base, et donc du coup alerte spoil, on va probablement le spoiler au cours de...
Voilà, et je pense que quand on va passer à la fiction on va pouvoir parler peut-être des personnages. Quand on va passer à la fiction va vraiment falloir le mettre parce que en plus c'est... Ce scénar, s'il est un tout petit peu spoilé, on peut plus y jouer.
D'accord, ok.
Ne serait-ce que le titre.
Ah, d'accord, ok.
Ah, le titre. C'est quoi le titre? Alors, je veux savoir le titre.
Et tu le sauras à la fin, quand la bannière aura été mise. Alors, on va peut-être parler d'abord des personnages, du coup. Sans même parler... Ils sont tous en train de se montrer des trucs. Ils s'écrivent des petits papiers, ils se montrent des trucs.
Non, c'est juste qu'elle a mis un E à la fin de mon diminutif, c'est tout.
Il s'est passé
pas tous,
il
y en a un qui change pas de papier, qui continue juste de boire.
Il s'est passé des trucs. Mais on y reviendra.
D'accord. Alors, donc j'aimerais bien tenir ce podcast.
Je pense que c'est mal barré.
On commence par une présentation des personnages.
Une présentation des personnages. C'est parti.
Allez, je commence par le mien, le temps qu'ils calment leur fou rire. Donc, du coup, moi j'avais Pris, qui est une jeune tatoueuse française, avec notamment donc, des activités d'artiste de rue. Donc quelqu'un d'un petit peu fauché sur les bords.
D'accord.
Avec comme dominante la caractéristique âme, surtout.
D'accord.
Donc ses aspects d'empathie, mais aussi de... Moi, j'avais retenu surtout le mysticisme pour ce personnage-là.
Alors, est-ce que tu pourrais peut-être nous dire les caractéristiques, du coup, parce que ça n'a pas été dit, ça, tout à l'heure. Tu me
dis
âme.
Alors, en fait, il y a quatre grandes caractéristiques. Corps, vitesse, esprit et âme.
Corps, vitesse, esprit et âme.
Dans lesquelles on va rentrer différentes compétences.
D'accord.
Voilà, avec 200 points à partir au début entre ces quatre caractéristiques-là.
D'accord.
Voilà, j'avais un petit peu baissé tout ce qui était plutôt corps, vitesse et esprit.
Et donc toi, vraiment, c'était voilà, c'est ça. T'étais spécialiste dans l'âme, pardon. Ouais. L'âme, c'est quoi dans Nonarmise? Ça permet de faire quoi?
L'âme, concrètement, c'est tout ce qui est l'empathie,
ouais.
Le fait de ressentir. L'art également.
D'accord. Ouais.
Et pour le cas où ça existerait, la magie.
D'accord. L'esprit, c'est plutôt, j'imagine, l'intelligence, la puissance de calcul, les connaissances, ce genre de choses, le savoir.
Exactement.
Et la vitesse, bon bah, je pense qu'on a bien compris, c'est l'agilité, la dextérité,
l'esquive, l'initiative, ce genre de choses. Ouais.
Ça, et le corps, c'est tout ce qui est compétences athlétiques. C'est également les points de vie.
Points de vie.
Et juste une particularité à signaler, dans ce jeu, les joueurs ne connaissent pas l'état de leur point de vie. Ils savent combien ils ont encore, donc ils savent combien ils ont de points de vie. Mais c'est le maître du jeu qui tient compte des points de vie.
C'est intéressant.
Et il leur décrit uniquement les blessures reçues et leurs effets.
D'accord. Putain, c'est assez fun, ça. Ok.
Sachant
ça crée un peu de stress, ça, non? Ça doit créer un peu de stress, ça, autour de la table. Prenez les micros.
Ouais, on comprend très très vite que de toute façon ça va être très létal vu ce qui arrive au PNJ. Donc
techniquement, je suis le seul à avoir été blessé. En fait, ouais, je savais à quel point j'étais blessé vu que c'est moi qui ai fait mes dégâts. Mais on y reviendra. De toute façon, globalement, la moitié du temps, quand on s'est fait attaquer, on meurt dans ce jeu. Donc le compte des points de vie, enfin, c'est stressant, mais pas plus que n'importe quoi d'autre en fait.
D'accord. Okay,
oui, mais ça apporte quand même une petite dimension au jeu, c'est que quand on te dit pas il te reste 12 points de vie, mais on te dit tu t'es pris une balle dans le bras, Ouais. Bah, tu joues la balle dans le bras, alors que quand il te reste 2 points de tu t'es pris une balle, mais tu continues à te pomper l'op. Enfin, oui, je sais pas si tu vois ce que je veux
bien
dire.
Bien sûr. C'est-à-dire qu'on joue beaucoup plus, puisque le meneur de jeu insiste beaucoup plus sur les descriptions des souffrances corporelles. Mmh. On joue beaucoup plus les souffrances
niveau
corporelles.
Immersion, c'est
là où quand le maître de jeu annonce juste 5 points de vie, et ben on sait pas quoi jouer, ça n'apporte aucune couleur pour la partie.
Voilà, un jeu basique, prenons Warhammer par exemple.
Par exemple, ouais, tout à fait.
Si il te reste peu de points de vie, tu peux encore pratiquement tout faire. Enfin, t'as peut-être quelques malus, mais enfin voilà, tu peux encore te servir une arme, même si on t'a coupé le bras, limite j'exagère un peu.
Ça dépend
mais
vraiment des jeux, mais ouais, effectivement, oui, je vois tout à fait ce que tu veux
alors
dire.
Alors que là, tu peux plus te servir de ton bras.
Moi, j'avais perdu les 2/3 de ma vie en une balle que je m'étais tiré moi-même dans l'épaule en visant quelqu'un d'autre. Mais
les blessures ne sont pas des chiffres, ce sont des traits. Et donc, du coup, il faut les jouer.
Et je pouvais plus rien faire.
D'accord.
Globalement.
Manu, tu voulais continuer ?
Signaler quand même qu'il y a une compétence spéciale qu'on a à choisir parmi 6, dont militaire, science, superstition, christianisme, bouddhisme, et l'autre, j'ai écrit comme un chat, donc je ne sais pas lire.
À choisir, je comprends pas.
Que tu suggérais, ouais.
Je l'ai pas, là.
Attends, je croyais que les compétences, vous les choisissiez pas, que vous les...
Alors, il y en a certaines qui sont proposées, Emmanuel. Des compétences, et puis on en a d'autres qu'on peut aller vraiment
Peut-être laisser le maître expliquer.
Ouais.
Voilà, donc en fait...
Genre, je le fais mal, quoi. Merci. Merci beaucoup, François.
T'étais en train de te perdre, quand même.
Il y a une base de compétences qui est offerte aux joueurs. Qui sont communes à tout le monde. Tout le monde a 15% dans ses compétences.
D'accord.
Par la suite, il y a d'autres points à répartir, hein, je vous rassure. Et ensuite, les joueurs créent les compétences qu'ils souhaitent. En parallèle de ça, il y a un système de santé mentale, on pourrait dire.
D'accord.
Mais qui est géré par 5 aspects différents, qui sont la violence, le surnaturel, l'impuissance, la solitude et le soi.
Mais oui.
Et en fait, on estime que un joueur peut être contrairement à Cthulhu, un joueur peut être habitué à avoir de la violence et donc pas être choqué par un acte violent, mais ne pas être habitué à voir un fantôme et être extrêmement choqué par ça, ou inversement. Et c'est en fait, il y a 5 jauges comme ça à gérer qui contiennent des endurcissements et des fragilisations. Et qui font que le joueur est plus ou moins sensible, le personnage est plus ou moins sensible à tel type de stimuli.
Donc un non-armise complexifie l'idée de santé mentale en attribuant 5 types de santé mentale différents et en fonction de la santé mentale perdue, des folies qui vont en découdre. Là où par exemple dans Cthulhu, quand on perd de la santé mentale, on tire un dé, on regarde sur un tableau, tout ça est complètement aléatoire et il n'existe qu'une seule santé mentale. La santé mentale de Cthulhu. Là, ici, il existe finalement 5 types de santé mentale. La violence, le surnaturel, le soi, l'impuissance et la solitude. Et chacune de ces santé mentales, la perte de ces points ou l'augmentation peut-être de ces points, ça va dans quel sens ? J'ai l'impression que c'est...
En fait, il y a deux jauges différentes. Il y a une jauge de fragilisation donc, qui rend plus sensible à ça.
Oui.
Et une jauge d'endurcissement
D'accord.
qui permet d'y c'est résister.
Ça. Est-ce que tu peux nous dire d'ailleurs ce qui arrive quand on remplit la jauge, notamment de fragilisation ? T'as pas voulu nous le dire au départ ? Ça fait partie des gros secrets ?
Ça fait pas partie des gros secrets, mais globalement, vous avez une folie et... qui dépend beaucoup du personnage. Et... C'est assez complexe à gérer. Par D'accord. contre, c'est beaucoup plus riche, à mon sens.
Tu nous expliqueras peut-être après la bannière spoil,
oui.
parce que moi, ça fait partie des choses quand même. Avant d'acheter un jeu, je suis meneur de jeu. Avant d'acheter un jeu, j'aime bien savoir quand même ce qu'il a dans le ventre, vraiment, tu vois. Ça te dérange pas, Vincent, de spoiler ?
Aucun problème.
Est-ce qu'on pourrait présenter peut-être le personnage de Yosei ? On continue notre petit tour de table.
Donc moi, je jouais Liu Win, une petite Asiatique qui venait de New York et principalement de Chinatown. Voilà. Elle avait 19 ans. Alors, c'était une fille assez pied dans le plat, puisque elle était plutôt tournée vers l'informatique et un petit peu geek. Mm-hmm. Et donc, elle avait une relation aux autres qui était assez particulière, un peu d'empathie. Voilà. Et elle était déjà confrontée à la violence depuis très jeune,
D'accord.
puisque sa famille tenait un commerce à Chinatown et que c'était le genre de commerce à se faire racketter régulièrement par la mafia. Donc, elle était quand même témoin d'actes très violents, de tortures, de ce genre de choses. Donc, elle était...
T'étais déjà blindée en point de violence, quoi.
Ouais, pas blindée, mais un petit peu plus endurcie que les autres.
D'accord.
Et ce qui expliquait aussi qu'elle soit un peu, pas asociale, mais qu'elle a un rapport particulier aux autres.
Je trouve ça assez génial, hein, cette différence entre les points de violence et naturel. Parce que c'est vrai que... Effectivement, quoi. Il y a des gens qui vont être super balèzes physiquement, des militaires par exemple, qui vont pouvoir n'avoir pas du tout peur du conflit ou du combat, et puis au moindre élément surnaturel se mettre à flipper. Ou,
oui, ils
voilà.
peuvent perdre pied rapidement. Bah, moi par exemple, ma faiblesse c'était la solitude. Donc elle était habituée à la violence, mais par contre elle ne pouvait pas supporter la solitude.
C'est vachement intéressant.
Et du coup, oui, ça apporte une dimension un peu plus travaillée, on va dire.
Et ça fait encore une fois des couleurs pour jouer son personnage. C'est-à-dire que chaque élément de santé mentale qu'on a sur sa fiche invite à jouer son personnage de telle
Alors,
manière.
Alors, pour donner le Vincent. Bon nom, quand même, ça s'appelle l'échelle de la folie.
Ah.
Ça en dit beaucoup.
L'échelle de la folie. Dis donc. Ça me fait penser à quelque chose, ça.
Je ne vois pas. À quoi ?
Un film qui s'appelle L'échelle de Jacob, mon ami.
Je ne comprends pas.
Ah, ça y est, je commence
à comprendre. C'est pas du tout dans les inspirations du jeu.
D'accord, ok, très bien. Je comprends mieux maintenant. Et, bon, à savoir aussi, chers auditeurs, je fais le naïf, mais j'y ai déjà joué. Hein, Nonarmise, c'est un ami, Twent d'ailleurs, qui peut-être nous écoute encore, je ne sais pas, qui était un ami de David Gauss. Hein, ça remonte à très très loin, qui nous avait présenté ce jeu. S'il nous écoute, je le salue. C'était une expérience assez bizarre. Tout ce que je dis, mais je me souviens un peu du jeu. Voilà. François, tu peux nous présenter ton personnage rapidement ?
Donc moi, mon personnage, c'était globalement un jeune de banlieue qui passait ses sentiments de haine envers toute forme d'autorité, qu'elle soit policière ou violente de la part de mafia quelconque, dans la maîtrise de soi et d'essayer de rendre la maîtrise aux autres. Et la maîtrise de soi, pour lui, passait par le sport et plus particulièrement le parcours.
Donc maîtrise de son corps, quoi. Vraiment.
Voilà. Ouais. Donc c'était un personnage très physique. Donc il avait beaucoup de vitesse, beaucoup de corps. Après, en esprit un peu et en âme, pas du tout. Quoi. Il aidait les autres, mais sinon, en termes de charisme, c'était une moule frite. Quoi.
Moi, tous les gens que j'ai rencontrés qui faisaient du parcours avaient une très grande âme, parce qu'il y a quelque chose de très esthétique dans tout ça.
Je vois aussi, mais à un moment, il faut bien faire des plus ou moins dans le système. Quoi.
Ah, c'est intéressant. Et est-ce que, par hasard, le système de jeu t'aurait pas poussé à faire ce personnage ? C'est en voyant vitesse que tu t'es dit, tiens, ça pourrait être sympa de triper.
Alors, pas tout à fait.
Comment t'as eu la source d'inspiration de ce personnage ?
En fait, c'est...
Je trouve qu'il est moins classique, excusez-moi les filles, mais je le trouve un peu moins classique que les vôtres pour du urbain.
Alors...
Comment t'as eu...
En fait, alors ça c'est assez personnel, en fait, c'est juste que c'est un peu ma deuxième... Le parcours est une passion secondaire pour moi, parmi des trucs un peu que j'aime bien dans la vie, en dehors de ce que je fais traditionnellement, et que j'aimerais bien essayer de pousser plus, mais que je prends jamais le temps de faire.
D'accord. T'as lu le livre de David Bell ? Ouais. Le livre de David Bell ?
Non.
La Bible du parcours, là. C'est génial.
Il ouais, faudrait que je me renseigne.
Tu tapes David Bell, parcours avec un K, et tu vas tomber sur le bouquin. Okay. Et voilà, où il raconte l'origine en fait, du parcours, comment ça lui est venu, à travers l'admiration pour son père et tout ça. Et je trouve que les enjeux du parcours sont bien présentés. Et, voilà, c'est intéressant.
J'ai parlé à pas mal de praticiens, je me suis intéressé au sujet.
Souvent, le parcours. Je vois Vincent qui souvent le parcours c'est quelque chose qui est présenté comme tu sais des Yamakasi qui sautent dans tous les sens et on oublie que voilà.
Bah, y a une dimension spirituelle derrière aussi. Ouais, quoi,
parce que je vois Vincent qui hoche la tête en disant ah ça a l'air intéressant. Mais tu sais tu connaissais ça un petit peu le
parcours. Oui un petit peu oui. Ouais.
J'en doute pas.
Mais
Donc François, ouais, c'est...
Et donc, en fait, c'est aussi surtout que j'avais envie de faire un personnage différent du personnage que je fais dans tous les JDR depuis un certain temps, qui est le gentleman cambrioleur que je joue dans tous mes JDR. Et là, j'avais envie de faire un truc différent. Voilà.
Parce que vraiment, moi, quand je vois les caractéristiques corps, vitesse, esprit, âme et tout ça, je me dis que ça peut aussi inciter à créer... La vitesse, c'est original. Âme, corps, esprit, ce sont les grandes distinctions qu'on trouve même dans l'alchimie, tu vois.
Je comprends.
C'est quelque chose qui est vieux comme Hérode, mais par contre, la vitesse...
Je comprends ce qui, dans les nominations de ces caractéristiques, te fait penser au parcours, et effectivement, en y pensant, ça m'a peut-être inspiré assez...
C'est un milieu urbain, tu vois.
C'est vrai. Ouais. Il y a tout ça qui a pu me guider dans cette direction-là. Surtout que le maître de jeu a bien insisté sur le fait qu'il fallait plutôt fuir le danger. Et que voilà. La fuite, c'est un c'était
choix,
bien.
Chacun gère ça comme il l'entend.
Ouais, enfin, c'est ça où on meurt, quoi.
Chacun gère ça comme il l'entend. C'est ton choix.
Très bien. Alors, une fois ces personnages présentés, est-ce que peut-être vous pourriez nous parler soit très rapidement de la fiction, soit peut-être les scènes qui vous ont le plus marqué, nous expliquer pourquoi.
Le taxi.
Alors, okay. Qu'est-ce que c'est
que je pense que là, il faut mettre la bannière spoil.
D'accord, directement.
Ouais, okay. Directement, c'est okay. Pas possible. On peut rien dire sur scénario.
Est-ce que vous voulez peut-être donner un avis sur le jeu avant de spoiler? C'est un peu bizarre.
C'est une bonne idée.
Emmanuel, donc du coup, après la partie, tu te sens comment? Qu'est-ce que t'en penses de Non Armies?
Pour le coup, je vais pas être très neutre. En fait, je pense que je suis typiquement le bon client pour ce jeu-là.
D'accord.
Je crois que c'est clairement le genre de truc qui est fait pour moi. Et du coup, je suis super contente de la partie. Il y a des mystères, des trucs complètement dingues.
Des secrets dans la ville.
Des secrets, ça raconte une histoire, ça retourne le cerveau. Le MJ te regarde avec un petit œil sadique en sachant très bien que t'es ravi de manger aussi cher que tu manges.
J'ai été super gentil avec vous. J'ai fait attention à vous préserver.
Il y a quand même une certaine violence, beaucoup de dynamisme. Et puis au moment où tu te dis que tu commences à maîtriser la situation, paf, ça repart complètement en vrille.
D'accord.
Donc, pour moi, c'est super. Avec finalement, effectivement, assez peu de bastons. Donc, on est plutôt en train de se demander comment on va s'en tirer plutôt que de savoir quel dé on va lancer et comment on va taper. Donc, pour moi, c'est vraiment le type de jeu qui m'éclate bien.
Qu'est-ce que tu avais choisi comme compétence, toi, justement, Emmanuel? Tu peux te donner des exemples de compétences? Par exemple, les compétences sous corps ou je sais pas, toi tu disais que t'étais
moi,
la plus forte en âme.
Moi j'étais plutôt orientée à âme, voilà, donc vas-y, donne-nous j'avais choisi, donc on avait déjà de proposer charme et mensonge, j'avais rajouté art, empathie, mysticisme. Alors concrètement, c'est vrai que les compétences finalement on s'en est pas tant servi que
ça. Oui mais ce sont des couleurs.
Et ouais c'est plutôt orienté. Et accessoirement, le fait qu'on les ait pas à un niveau. Alors, faut préciser quand même que, même si on les a à un niveau très bas, en fait, à partir du moment où on a ces compétences-là, tant qu'on n'est pas en situation de crise, on gère. Donc, art, je suis capable en temps normal de réaliser un superbe dessin, aucun problème.
D'accord.
Par contre, en situation de stress, je me retrouve avec art à 20. Donc là, pour le coup, il va falloir que sur mon jet, je fasse en dessous de 20. Donc, la difficulté n'apparaît qu'en situation de stress.
Concrètement, si elle essaye de réaliser une œuvre d'art, un tag ou autre, pendant une fusillade, elle va avoir un petit peu de mal. C'est ce qu'essaye d'exprimer le jeu. Et vraiment, les scores de compétences sont toujours très bas.
Ouais.
Même quand on est à des niveaux assez avancés. Mais parce que, à partir du moment où on a la compétence, on a déjà la compétence et toute une somme de connaissances liées de près ou de loin à cette compétence. Et ensuite, on ne fait les jets, réellement, qu'en cas de stress, de difficulté, je dirais pratiquement d'épreuve, quoi.
Alors, mais quel type de difficulté? Parce que, étant donné que vous nous avez décrit jusqu'à maintenant de la santé mentale différente en fonction des 5 branches qu'on a vues tout à l'heure, les difficultés peuvent survenir par la violence, le surnaturel, le soi, l'impuissance,
la
solitude. C'est ça, en fait. La difficulté, c'est pas forcément... Parce que tu nous as un petit peu caché ça tout à l'heure, Vincent. C'est-à-dire que tu as fait ton petit cachotier. Parce que généralement, le stress extrême, on imagine tout de suite le combat. Voilà, on se dit, forcément, un tag en combat,
Mais en fait,
si seulement il y avait
plein d'autres choses.
Seulement il y avait que ça de stressant.
Stress extrême, en fait, c'est l'étrange, l'underground, vraiment, qui est au cœur de ce jeu. Les personnages vont basculer d'un monde normal. Concrètement, je leur ai demandé de créer des persos qu'ils pourraient croiser dans la rue.
Ça, c'est dingue.
Et de ça, ils vont basculer dans un monde où il se passe des choses, on peut le dire, au niveau de ce scénario, pas tout à fait normal quand même.
Sans déconner.
Un peu étrange.
Okay.
Et du coup, en fait, cette situation de stress, réellement, elle était là, je pense, pendant ce scénario, elle est là à 100%.
À 100%, c'est ça. On n'est jamais en situation de repos, à pouvoir échanger entre PJ, etc.
C'est marrant parce qu'en fait, maintenant que j'y pense, tous les jeux du 7e cercle auxquels j'ai joué, c'est toujours ça. Ce sont toujours des jeux dans lesquels on commence dans une ville ou une réalité et progressivement on bascule dans une autre. Et c'est impressionnant, quoi.
Tu peux juste oublier le progressivement et puis c'est ça.
Oui, d'accord, ok. Ouais, mais tu vois, Kult, c'est
en fait,
ça.
Dans ce jeu,
c'est ça. Alors, Kuro, c'est ça aussi. Hein.
C'est
dans
de l'immédiat-res.
D'accord.
Mais c'est de l'immédiat-res à l'échelle des scénarios. C'est-à-dire que quand on parle d'immédiat-res en JDR, souvent on parle d'une situation qui arrive pour créer le scénario.
Bien sûr.
Là, au niveau de la campagne, le premier scénario est immédiat-res. Et effectivement, chez 7ème Cercle, c'est très souvent le cas.
Ouais. Je suis désolée, mais ça fait plusieurs podcasts mais que non. Vous écorchez ça. C'est immédiat-res. Merci.
Immédiat-res ?
On dit immédiat-res.
Attends pour moi.
C'est du latin.
Pourquoi tu disais quoi, toi ? Immédiat-res.
Immédiat-res.
Ouais. Bon,
mais je suis pas latiniste.
T'es pas le seul à l'avoir écarché dans ces micros-là, t'inquiète pas.
Je me flagellerai violemment.
Yosei, qu'est-ce que tu as pensé de Armies ? Bon, ben vous avez fini, vous deux, là. Vous accrochez, là. Donc, Yosei, qu'est-ce que tu as pensé de Armies, ton point de vue ? Moins
alors
emballé,
moi,
apparemment.
Hein ?
Moins emballé qu'Emmanuel, apparemment.
En fait, je pense pas que c'était le jeu, mais c'était le scénario. Moi, j'ai trouvé... Enfin, comme souvent dans le one-shot, en fait, surtout là, le one-shot de début de campagne, enfin... C'est bizarre de dire ça, mais voilà.
Oui.
C'était assez frustrant, parce que comme l'a dit Manu, on n'a pas vraiment eu le temps d'échanger entre PJ. On a été projeté directement dedans. Ça, par contre, voilà, radical. Mais du coup, peut-être pas le temps de faire la petite balade tranquille du PJ qui découvre le monde, ou la petite balade, enfin, l'élaboration de plans, aux gens dessous. C'était pas le temps de réflexion, pas, comme dirait Fabien, pas un instant de contemplatif.
D'accord, ouais.
Et je pense que c'est vraiment pas dû au jeu, parce que le jeu m'a beaucoup plu sous ses aspects, on va dire, techniques, les possibilités que ça
mécanique.
Peut offrir aussi, mécanique, voilà. Mais du coup, le scénar a fait son rôle, il m'a donné envie de jouer plus pour découvrir plus.
D'accord, ouais.
Voilà. Mais pour ce scénar-là, pour ce soir, j'ai une sensation d'un peu d'inaccompli.
D'accord,
parce
inachevé,
que, voilà.
Ouais. François.
Pareil.
Merci François.
Non mais
quelle
non,
éloquence.
C'était super.
Pareil que Yosei, ouais, c'est ça.
Mais le problème c'est que maintenant je veux jouer à la campagne.
Oui, d'accord. Ouais.
Voilà, enfin parce que ben on va pas rentrer beaucoup plus dans le scénar, mais il se passe des trucs de fou direct et on comprend rien.
C'est un premier scénario, reste soft. Par rapport au reste, tout est relatif.
Ouais,
hein, mais par rapport au reste,
bon,
on reste soft. Alors,
peut-être, mais par rapport à la normalité du monde duquel nos personnages partent, il se passe des trucs de fou. Reste, soyons d'accord.
Un peu.
Bon, bah,
vous verrez après la balise spoiler.
Voilà, c'est ça. Je pense que là, c'est le bon moment pour lancer
juste,
la balise spoiler. Emmanuel,
juste
pardon.
Pour compléter ou un peu contrecarrer ce qu'a dit Yo, finalement, le fait qu'on n'ait pas le temps d'y réfléchir et pas le temps d'échanger. En soi, moi, je trouve que ça nous plonge dans un tourbillon et j'en veux pour preuve qu'il y a plein de moments où, au moment où notre MJ allait décrire un truc, paf, on l'arrêtait pour faire une supposition, quoi. Ouais, c'est tel PNJ, ou ah, il va faire ça. Ou et donc, tu vois, on est tout le temps en train de cogiter aussi.
Ah,
et tout le temps
oui,
dans le rythme. Alors, ça, je kiffe. Hein,
on était toujours emporté, toujours actif, toujours en train de chercher ce qui se passait, toujours en train de faire des choses.
Alors, le problème vient peut-être juste de ma vitesse de cogitation, si je puis dire.
Non, mais c'est pas ça. Non,
j'ai
mais
peut-être
c'est,
besoin de prendre plus de temps. Fallait pas commencer au Shushen avant.
Et voilà, c'est ça.
Non, le Shushen est venu après.
Non, 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 mais.
Non, 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 mais.
C'est juste que t'aurais voulu un moment de calme pour discuter entre les persos, se présenter un peu, discuter un peu, comprendre ce qui se passe, voilà. Alors que là, le tourbillon entraîne.
C'est
une autre dynamique.
Mais c'est pas une critique, quelque part. Ce que je disais, c'est qu'on a été. Si je savais qu'on habitait à côté de chez Vincent et que dans une semaine, on allait rejouer, y a pas de souci, j'ai kiffé ce scénar, hein, et voilà. Mais c'est juste de me dire que peut-être j'aurai une chance de rejouer dans un an, et puis voilà, c'est ça qui est frustrant.
Je dois vous faire un aveu, je suis à la recherche d'un logement, Yosei. Si Shadow et toi, vous avez une chambre d'amis, je veux bien maîtriser. C'était le but.
Le loyer, une partie par semaine, ça
il
me
fait
va.
Les petites annonces avec un armis, quoi. Le type.
Mais voilà, c'est vrai que niveau action, niveau rythme, c'était quand même soutenu et agréable.
effrénée mais agréable, quoi.
Ouais.
Très bien. Allez, c'est le moment de la bannière spoiler. Hein, si vous voulez jouer, si d'ores et déjà ça vous a donné, pardon, envie de jouer à une non-armise, voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais nous, on va les ouvrir, les yeux. Hein. Allez, tu vas nous parler de tout ça. Tu vas nous dire comment ça se met en place. Donc là, c'est plus pour les MJ qu'on parle. Alors, c'est quoi les secrets? Qu'est-ce qui vous est arrivé pendant le scénar? On va peut-être parler de la fiction d'abord. Alors, qu'est-ce qui se passe?
Alors, dans le scénario, les personnages sont clairement plongés dans l'action. Ils ne peuvent pas comprendre.
Vincent.
C'est le but.
Sans déconner.
Je pense qu'il faut que j'explique un petit peu ce qui se passe.
Oui, je pense.
Après, ils donneront leur ressenti, leur fiction. Mmh. Et après, j'expliquerai toutes les choses qu'ils ne pouvaient pas savoir, qu'ils ne pouvaient pas comprendre.
Tu expliques ce qui se passe, ils expliquent ce qui se passe, puis après tu expliqueras vraiment ce qui se passe.
Voilà. D'accord. En réalité, le scénario, déjà, il faut savoir, s'appelle Kill Bill au cube. Et c'est pas un hasard. Ça commence par... je précise que je leur ai jamais donné le nom et que c'était pas un oubli de ma part. Mmh. Je ne voulais pas leur donner parce que je trouve que le titre spoil beaucoup trop.
D'accord.
Ouais.
les personnages qui commencent en l'occurrence sur divers continents, hein, j'avais deux Européens et un Anglais, se baladent, et un Américain, pardon. Oui, parce que les Anglais.
Ça commence comme une mauvaise blague, ça. Un Américain, un Français, un Belge.
Ils rentrent dans un scénar de folie.
Et en fait, ils se retrouvent tous, mais comme ça, sans savoir pourquoi ni comment, dans un désert américain.
D'accord, oui.
Décor Colorado, tu sais, les sables rouges, etc. À un croisement, donc les routes américaines, hein, super rectilignes, le croisement angle droit, et avec, ils arrivent sur les lieux d'un accident où trois voitures, trois sédans bleus, se sont rentrés dedans. Et il y a un shérif, pas si bizarre que ça, il a juste les yeux verrons, qui leur demande de les aider. Et là, je pense qu'il faut les laisser raconter.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Manu, tu veux commencer?
Ouais. Alors, globalement, donc, là, on est tout de suite, effectivement, dans l'action. On nous speed pour qu'on réagisse direct. Donc, on a essayé de sauver les trois PNJ, les sortir des voitures.
Voilà, le shérif aux yeux verrons incite les trois personnages pour nous qui viennent de... Alors, on est tous les trois en voiture. On s'est garé indépendant. On était chacun tout seul sur la route. Il y a le shérif qui nous arrête chacun de notre côté, enfin en tout cas moi c'est ce qui m'est arrivé, je pense que c'est pareil pour les autres, et quand on sort de la voiture, d'un coup, il y a deux autres voitures à côté.
Et passer du Larzac au désert américain, ça fait drôle.
Ouais, enfin, et moi j'étais en plein milieu de
Sussex.
Du Sussex, j'arrive en plein désert, il y a un souci aussi quoi, enfin voilà. Je sors de la voiture et là d'un coup il y a...
Et en fait c'était vos voitures qui étaient accidentées?
Non. C'était trois fois la même voiture.
Trois fois la même voiture.
Les trois arrivent au même endroit. Par le même carrefour.
Et l'accident et vient d'avoir lieu, visiblement.
Et c'est le même shérif qui nous lieu. Parle.
En fait, ils arrivent en même temps, d'où qu'ils soient sur Terre.
Ouais.
Ils arrivent au même endroit, en même temps. En le même shérif temps. Leur parle à chacun. Et dès l'instant où ils acceptent d'aider le shérif, ils garent leur voiture et quand ils sortent, ils se réunissent.
D'accord,
mais alors que l'instant d'avant, il n'y avait personne d'autre.
Voilà, c'est ça qui est sûr. Il n'y a personne d'autre. Et alors après, on se rend compte que les trois sédans bleus sont les mêmes, que dedans, il y a le même blessé avec les mêmes blessures. On le sort de la voiture, les trois, alors qu'il y a une explosion qui est en train de se préparer avec de l'essence et de l'électricité qui se prépare dans la voiture. D'accord. On arrive quand même globalement à sortir les trois, on les amène. Le shérif nous incite toujours à y aller, faut y aller. En nous disant qu'il faut vraiment faire quelque chose et tout, sans bouger lui, à part en vaguement s'occupant des blessés.
D'accord.
Et là, juste quand on récupère les trois et qu'on les amène, boum! Et puis...
On n'est plus là.
On se réveille ailleurs.
D'accord.
Sauf que tu t'es pas endormi.
Oui, enfin, on s'endort pas.
On se réveille pas. En fait, on se penche sur les corps et...
Il y a l'air chaud. Et là, on se retrouve dans un supermarché.
Voilà. On est au rayon nourriture animale d'un supermarché en train de se faire braquer.
D'accord.
Alors, le supermarché est en train de se faire braquer. Nous, on est juste à quatre pattes en train d'attendre que ça se passe, quoi. Alors, dans le supermarché, il y a donc des mecs avec des masques en train de braquer le supermarché. Il y en a un qui s'appelle Skit, je crois, qui tue un policier.
Ah d'accord. En fait, elle n'était pas bizarre, la partie de Normis que j'avais fait la dernière fois.
Ah non, c'est normal. Non,
si t'as trouvé ça bizarre, c'est normal.
elle était normale.
C'est ça.
Normalement, c'est bizarre. Quoi.
C'est ça.
Là, on est dans une campagne de niveau urbain.
C'est bizarre que ce soit normal.
Et en fait, je pense que pour le moment, c'est normal, en fait.
Il y a trois niveaux de campagne. Campagne urbain, c'est les PJ qui connaissent rien de l'underground. C'est le moins bizarre. D'accord. Après, on tombe dans le bizarre. Là, on est encore dans le soft.
Ouais, là, c'est soft. Moi, je pense qu'il est capable de pire, ce JDR. J'en suis convaincu.
D'accord.
Ce qui est très bien, c'est qu'en un scénar complètement loufoque, le JDR m'a convaincu qu'il est capable de faire mille fois pire.
D'accord, oui, j'en doute pas.
Enfin, donc bref, y a un des braqueurs qui tue un policier devant nous, et après, alors nous, on a essayé de vaguement s'échapper d'une manière ou d'une autre, et un autre des braqueurs a tué globalement devant nos yeux une mère de famille avec l'enfant à côté qui était traumatisé.
C'est le moment où on comprend que c'est quand même assez sale. Je sais pas si ça tient du MJ ou si c'est dans la base, mais les gens qui meurent, généralement, ça peut être assez sale. C'est des enfants qui meurent, c'est des mères de famille, il y a du détail.
Il y a une mère de famille qui se fait tuer, elle se prend une balle dans la carotide, l'enfant est couvert de sang, il est vibrant. Le maître de jeu a été très descriptif.
Non, mon MJ aussi avait été descriptif. C'est des conseils dans la base.
Ça fait partie des consignes, Vincent ?
En fait, dans
c'est
les,
pour,
je pense, je pense
pour bien
parce
montrer
que
la
vraiment le
derrière.
Jeu est très très gore par endroit.
Voilà, c'est ça.
On tient pratiquement du culte hein, au niveau gore.
J'en doutais.
Dans les références, il y a Existence.
Ouais, ça c'est sûr.
La
couverture de
Cronenberg. Ouais. Voilà, les oui, la couverture Existence. Vraiment le montre. Bon, moi, c'est la
deuxième
édition.
C'est une couverture
édition.
Orange. Hein. Ouais.
Vraiment.
Oui, en fait, c'est dans les textes. Ce que je veux dire, c'est que c'est dans les textes d'ambiance du jeu, dans les inspirations du jeu. Mais ça, c'est très souvent avec le 7e cercle. On en parlait aussi pour Kuro. C'est-à-dire que ce sont les inspirations du jeu et les textes du jeu qui donnent en fait la couleur esthétique du jeu et donc qui invitent naturellement le MJ qui est fan de ces univers à les reproduire dans la fiction par la suite. Donc en fait, peut-être qu'il n'y a pas de consigne exacte donnée au MJ, parce que ça, c'est pas trop dans les habitudes de 7e cercle.
Le scénario est quand même assez dirigiste et assez précis
d'accord,
dans ce cadre-là.
D'accord, donc voilà.
Je pense aussi que c'est pour tout de suite faire comprendre aux joueurs que c'est sérieux. Parce que du coup, nous, on n'a rien eu le temps de paner, on se retrouve sur un accident, bim, projeté au milieu d'un supermarché, on pourrait se dire, ouais, c'est la fête, c'est du n'importe
c'est
quoi.
C'est pas
voilà.
Toon, quoi. Vous n'êtes pas en train de dire Toon.
C'est ça. Ouais. On arrive dans un supermarché, bim, un flic, une mère de famille, s'il y a un réel danger... Hop, vous êtes dedans, soyez quand même sérieux, quoi. Ouais. Jouez.
Parce que tu vois, ton scénario, voilà. la manière dont il commence, ça me fait penser à la partie de Tout le monde est Jack ou Tout le monde est John. Je crois que c'est Tout le monde est John qu'on avait fait à la cellule.
Ouais,
et en fait, on voit bien que là, cette scène grave, en fait, remet les pendules à l'heure, en quelque sorte.
Je sais pas de quoi tu parles, mais Tout le monde est John, on appelle ça Tout le monde est Bill, et finalement, ça ressemble pas mal. Hein.
Non, c'est vrai que.
Vincent.
Je pense que quand on présente ce jeu, on est obligé de parler du côté décalé parce qu'il y a vraiment beaucoup d'humour dans le background. Mais l'humour, il doit être en filigrane.
Ouais, il est glauque.
Et il doit intervenir vraiment très très loin. Ouais. Et au départ, il faut, je pense, choquer les joueurs. Et il ne faut pas hésiter à aller vraiment dans le gore. Je pense que j'ai réussi.
ça va. C'est
Emmanuel.
Pas mal. Mais
après, c'est vrai que nous, il y a eu beaucoup de HRP. J'aurais flanqué des points d'immersion négative à tour de bras à mes deux collègues. Du coup, je me demande si quelque part, c'est pas aussi une stratégie. On sent que ça va être gore, on sent que ça va être choquant. Et du coup, on est déjà, dès le départ, dans le côté. On s'échappe un peu dès qu'on en a l'occasion. Quoi.
Oui, c'était pour donc, alléger un peu. Mais après, je pense qu'on arrivait quand même à se remettre dans la fiction. Quoi.
Oui, mais vous avez été insupportable, nous sommes d'accord.
Oui, tout à fait. J'en suis convaincu.
Oui, alors c'est le problème hein, des trucs très très gore, c'est que ça peut aussi pousser à la monstruosité et la caricature de cette monstruosité. Ça n'a pas été le cas là, you say ?
Pas trop.
Non,
voilà.
Non, je n'ai pas ressenti comme ça en tout cas.
C'était plutôt des rires gênés pour sortir de la gravité.
Je pense, de ma vision, moi clairement ça ne m'a pas du tout gêné et je comprends que les joueurs aient besoin de ça. À chaque fois que j'ai joué ou j'ai fait jouer ce scénario, ou que je l'ai vu jouer, parce que je l'ai vu jouer y compris dans un club, ça se passe toujours comme ça. Et je pense que les personnages, souvent les joueurs partent pour jouer sur un jeu léger, un petit peu délire et tout, et quand ils comprennent que ça ne va pas être ça du tout, qu'on va être beaucoup plus dark que du Cthulhu ou autre, ils ont besoin de se poser un peu et comme le scénario est très très prenant, c'est un scénario sur rail, hein, il faut être clair. Il y a très peu de liberté laissée au PJ, mais il y a un rythme qui est vraiment élevé. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de temps mort. Il y a...
C'est un grand 8. On appelle ça un grand 8, ce type de scénario.
Oui, mais je vois peut-être une ou deux minutes de temps mort possible pour les persos pour discuter. Et vraiment pas plus.
Devant la porte alors qu'il y a un mec qui est en train de se faire torturer ?
Exactement.
Ouais.
C'est le seul moment, je pense, où vous pouvez...
Allongé dans l'herbe aussi, sous une fusillade. C'était bien ?
Ouais, c'était pas mal non plus.
C'est vous qui avez décidé de rester allongé.
Bah, ça tient dans les deux sens, ouais.
Fallait le temps de savoir vers quel assaillant on allait se diriger, en fait.
Bon, ça me semblait évident que c'était les cultistes tarés qu'il fallait aller voir. Hein.
Bon, on continue la fiction, je pense qu'il faut expliquer. Oui. On rentrera dans le détail après.
Est-ce que, on peut peut-être aussi vous me direz si vous voulez rajouter des choses, mais en fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois...
Ouais, il faudrait peut-être accélérer la fiction, vrai. C'est vrai que c'est un peu chiant de raconter.
Finalement, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, paf, on retombe à la fin de la scène, on retombe sur la scène de l'accident. On revit l'explosion et on se retrouve dans un contexte complètement différent où il y a toujours ce même type, régulièrement un type aux yeux verrants aussi.
Voilà, il y a toujours Bill qui est en fait le type de l'accident, l'accidenté qui est à chaque fois dans une sedan bleue. Et en fait, ce type, on le retrouve dans les trois scènes. Donc il y a le cambriolage dans le supermarché. La deuxième scène, c'est Bill qui est en train au départ de torturer un type chelou avec le visage fondu. Et Bill utilise une magie à la noix pour le torturer. Et après, on va trouver la fille de Bill. Et la troisième scène, Bill est maître d'une
espèce de secte.
Il y a les flics qui gèrent un assaut contre la secte en question. Et Bill dirige la secte, explique qu'il va rencontrer Jésus avec des extraterrestres, avec des trucs de lumière. Et en fait, on se rend compte à la fin que c'est une ambulance à la fin de la fusillade.
D'accord. En fait,
ce qui se passe,
ça donne vraiment l'effet d'une espèce de faille spatio-temporelle dans laquelle il y aurait eu un accident qui n'aurait pas dû se passer.
Et en fait, la seule chose qu'on arrive à modifier, c'est quand dans la scène, on tue Bill ou que lui se tue lui-même, il y a un des trois accidentés qui disparaît. Donc on comprend qu'en fait, à la fin du scénario, idéalement, il faudrait qu'on les tue trois fois pour que les trois accidentés aient disparu. C'est bien ça ? Je ne me trompe pas ?
Alors là, je pense qu'il va falloir que je révèle des choses.
Allez,
c'est
balance.
Un peu plus compliqué.
Parce que, il faut reprendre la phrase du shérif, qui est quand même assez méta comme personnage. Soyons... Enfin, je dis ça parce que à un moment mon personnage a essayé de fuir la situation. Il disait qu'il était manipulé, machin. Et c'est un truc qu'il supporte pas.
C'est incroyable.
Alors il a essayé de fuir et le personnage aux yeux verrons lui est apparu et juste après qu'il lui ait dit en gros de retourner se bouger le cul pour aller voir Bill, il y a une échelle qui lui est tombée à deux doigts de la tête qui a failli le tuer quoi. Donc bon.
Il y a toute une dimension symbolique là-dedans, Vincent. Dis-moi, c'est peut-être pour ça que ça t'intéresse, non ?
Alors oui. Alors pour parler clairement, je vais raconter un petit peu ce qui se passe avant. Nous avons un monsieur qui s'appelle Bill Toge. Qui se baladait sur une route de campagne alors qu'il avait un petit peu tout échoué dans sa vie, qui se sentait un loser, et qui a eu un accident. Sauf que des lieux de l'accident, sa voiture est sortie de la route, tout simplement, mais des lieux de l'accident, trois biltoges sont repartis par trois routes différentes.
D'accord.
Et chacun de ces biltoges a mené une vie différente, une vie de raté. L'un est devenu un petit braqueur. L'autre a fait un enfant à une femme qui était illégitime et puis il a eu pas mal d'ennuis avec la police pour des violences conjugales et autres. Mais il se trouve que cette fille illégitime, il y tenait quand même et puis elle a été enlevée par un pédophile. Et le troisième, il est devenu un petit peu, on peut dire, chef d'une secte presque. Un petit peu allumé. Ouais. Et il y a un shérif qui est là, qui en réalité est un personnage récurrent. Qui s'appelle le comte de Saint-Germain, qui est présent dans beaucoup de jeux de rôle et voilà. Et ce personnage, il est comparé, et clairement c'est écrit dans la base noir sur blanc, il est comparable à Nyarlathotep. C'est-à-dire qu'il apparaît sous différentes apparences, à tous les niveaux de réalité. Il agit aussi bien au niveau universel qu'au niveau du détail.
Je me trompe ou c'est un personnage qui apparaît dans Le Pendule de Foucault ?
Oui, et c'est un personnage qui est... Alors, c'est un personnage qui a réellement existé.
Oui,
qui était un occultiste qui arpentait un petit peu les cours européennes. Je crois que c'était en 18e ou 19e siècle.
Il a réussi à se faire passer pour immortel.
Et exactement. Et qui initiait des gens et qui gagnait beaucoup d'argent avec ça. Hein. Il y avait beaucoup une notion d'argent quand même dans son immortalité.
Oui, oui bien sûr.
Et dans ses cours. Et qui est repris dans beaucoup de traditions ésotériques. On en parle un petit peu dans Vampire, on en parle dans beaucoup, beaucoup de jeux de rôle.
Et dans plein d'univers fictifs en général.
Et donc ce brave comte Saint-Germain bah, s'intéresse aux personnages, parce qu'ils ont un destin, ces personnages. Mmh. Et il doit les tester. Et en même temps, il doit, ben là, à ce moment, il doit remettre la réalité en place parce que ça pose tout un tas de problèmes quand il y a trois personnes qui apparaissent et trois réalités différentes qui cohabitent. Et donc, il en profite, il met l'utile à l'utile en testant les PJ et en disant, ben, vous allez essayer, on va voir si vous pouvez survivre à l'underground. Mmh. Et donc, il est là un petit peu pour les bouger, un petit peu pour les manipuler quand même. Hein.
Mmh,
et quand on le compare à Classis... il Évidemment. A un côté, sachant qu'il a une deuxième phase que les PJ n'ont pas vue parce qu'ils n'ont pas eu besoin, j'ai pas eu besoin d'aller jusque-là, mais qui est clairement de la cruauté pure.
Oui, il a failli me tuer quand même.
Mais il a été gentil là.
Oui, parce que j'ai pas poussé.
Parfois, il peut donner aux PJ des ordres totalement inhumains. Il faut vraiment le voir comme Nyarlathotep.
Alors, à savoir que si Twent m'avait fait tester ce jeu il y a 7 ans, c'est parce qu'il trouvait qu'il y avait des liens entre Non-Armise et Sens par rapport aux problématiques abordées, notamment à travers ce personnage. Donc voilà, là on retrouve la boucle est bouclée.
Ouais.
Voilà. Emmanuel, tu voulais intervenir avant que je...
Non, parmi les trucs cruels, entre guillemets, il y a aussi beaucoup de choses qui touchent au perso. On se retrouve face à soi, mais un espèce de soi démoniaque et compagnie. Des choses qui peuvent être assez perturbantes à la fois et pour le PJ et pour le joueur qui sent qu'il est un peu dépossédé de son personnage. C'est,
alors
c'est
en fait,
aussi.
Pas tant que ça. Disons que quand vous échouez, il y a des conséquences. Et comme la réalité continue de splitter, mais que vous êtes inclus dans cette réalité, il y a ce qu'on appelle des hantises qui apparaissent. Et ce sont en fait des espèces de... C'est pas vraiment des démons, mais c'est les pires côtés de vous. C'est votre vous démoniaque qui apparaît dans la réalité. Et
part d'ombre.
Qui sait, peut-être qu'un jour, il reviendra un petit peu plus loin dans la campagne.
C'est-à-dire qu'en fait, les deux fois où... Nous, dans notre scénario, là, François. Deux fois, on n'a pas réussi à se débarrasser de Bill et à l'empêcher d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'une fois, dans le cambriolage au supermarché, il a réussi à partir avec ses compagnons. C'était la première fois, on ne s'est pas du tout rendu compte de ce qui se passait. Il est parti.
Vous
ne
saviez pas, en fait, ce qui était l'objectif.
Voilà. Et je crois que... Enfin, je ne sais plus quel personnage était au volant de la camionnette qui emportait les cambrioleurs.
Emmanuel. Ouais.
Voilà, c'était le personnage d'Emmanuel qui était au volant et qui lui a souri de manière maléfique avant de partir. Et lors de la troisième fois où on a aussi raté, alors Bill était à ce moment-là donc chef de secte et aussi quand même, disons-le, un peu plus que ça parce que quand j'ai essayé de le tuer avec une balle dans la tête après avoir bu une bouteille de truc qui ressemblait à de la drogue et qui m'avait fait le voir comme un ange, les tirs que j'essayais de faire sur lui se répercutaient sur les autres membres de la secte autour, puis quand j'ai essayé de lui tirer dans le bras parce qu'il n'y avait plus personne d'autre dans la camionnette que j'avais pas forcément envie que ça me tire dans la tête, c'est moi qui ai pris la balle dans le bras.
Ce qui m'amuse là-dedans, c'est que dans toutes les descriptions que vous donnez les uns les autres, d'abord c'est complètement habitable et deuxièmement on a l'impression systématiquement, et ça par contre c'est très sérieux,
on n'y a rien bité, c'est normal.
C'est pas ça, mais c'est que vous jouez dans un prisme. C'est-à-dire que c'est comme si vous jouiez... Vous savez, il y a ces images dans James Bond du cristal qui reflètent plein de fois la même image. Et j'ai l'impression, en fait, qu'à chaque fois, vous jouiez comme ça dans une espèce de cube cristallin ou dans un prisme, en fait, qui déformait complètement l'image.
C'est très lynchéen.
C'est ça, vrai.
Et donc, bref, ce coup-ci, on l'a juste blessé. Et il a réussi à s'en aller dans une ambulance. Et la personne qui conduisait l'ambulance était le personnage de...
Yusei, peut-être
Ouais, je crois.
Je crois que c'était celui du Yusei, voilà.
Et arrête de donner des détails, puisque personne n'y bite rien.
Mais pour le côté personnage démoniaque qui apparaît, voilà.
Bon, globalement, le comte de Saint-Germain, il envoie les PJ à 12 heures avant cet accident.
D'accord. Ouais.
Pour essayer de retarder les Biltoges, car si cet accident n'a pas lieu, les Biltoges cesseront d'exister. Et donc, il faut soit tuer le Biltoge quand on l'a envoyé, soit simplement le retarder suffisamment, de manière suffisamment significative, pour qu'il soit en retard à cet accident.
D'accord.
Donc saboter la voiture, ça suffisait d'une certaine façon.
Oui, parfaitement.
Yeah.
J'ai une batterie de questions. À moins que tu
allez,
veux continuer.
Je voudrais juste finir. Quand même, il faut savoir que là, les PJ disent qu'ils ont raté 2 fois sur 3. Mais ils sont placés dans une situation où ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire.
Mais oui, alors c'est justement, c'est une de mes questions, ça.
Et donc, ils ne peuvent pas réussir. Mais c'est le but. Il ne faut pas qu'ils réussissent.
Alors, je posais une première question. C'est, on voit bien que si on regarde les sources d'inspiration du jeu et sa couleur esthétique, hein, cette fois-ci, c'est canon esthétique. Et on voit tout de suite que c'est un jeu psychologique. D'accord ? C'est-à-dire qu'on va explorer la psychologie. Le monde, la réalité tangible, elle n'existe pas. On est dans l'esprit de ces personnages. Le problème, c'est que c'est pas difficile de faire un jeu sur la psychologie des personnages quand on est une team de PJ, par ailleurs, ensemble, tu vois ce que je veux dire ? Comment allier le fait qu'on soit tous ensemble, et donc qu'on ait quelque part des moyens de se confirmer les uns les autres que ce qu'on voit, c'est réel ou pas, puisqu'on est tous ensemble, et quelque chose de psychologique ? Quelque chose de psychologique, c'est quelque chose qui, généralement, est personnel. Là, c'est de l'hystérie collective, c'est de la... Mais et dans ce cas-là, si c'est de l'hystérie collective, pourquoi chaque personnage a ses jauges de violence, de surnaturel, de soi et d'impuissance ? Est-ce que ça devrait pas être plutôt le groupe qui hallucine ? Tu vois, ce type de question. Comment le jeu traite la part d'intime et de collectif, puisque c'est un jeu de rôle et qu'on joue ensemble ?
Alors, en réalité, le groupe n'est ensemble que parce que un personnage, le comte de Saint-Germain, décide de les réunir.
Et voilà.
Et il faut environ 5 ou 6 scénars de la campagne avant qu'ils aient une bonne raison de vrai ensemble.
D'accord, ok.
C'est pour ça Emmanuel. D'ailleurs qu'avoir le temps de discuter avec mes petits camarades, enfin que mon personnage ait le temps de discuter avec les autres, on se rend très vite compte que ça apportera rien parce qu'ils n'ont pas plus d'infos. Quoi. Même s'il y a eu des petits apartés avec le MJ, on sait très bien que de toute façon il n'en ressortira que dalle.
Yosei a l'air de valider là où, ce qu'elle disait.
C'est vrai, d'ailleurs c'est vrai, un des seuls scénars où on s'est souvent séparés. Mmh. On a fait 3 groupes de 1. Et plus d'une fois, parce qu'on n'avait justement pas de raison d'être ensemble. On a appréhendé la situation de 3 manières hyper différentes en suivant la psychologie de nos personnages. Et on n'a pas été ensemble si longtemps que ça, en fait.
Ouais. D'accord, ok. Ouais.
Et François, au niveau des ressentis personnels, lors de la 3e séance, j'étais le seul à boire. Au départ, j'étais le seul à boire l'eau magique de la secte, voilà, à voir l'ange. Et aussi, je me suis mis à voir mes compagnons de manière bizarre.
D'accord. Donc là, t'as eu un trip psychologique intime.
Il y a eu un trip qui était que dans mon personnage.
D'accord, ouais. Mais tu vois, donc au final, on partage un trip. En fait, collectivement, on partage la folie
perso aussi,
d'un PNJ. MJ, je pense. Un MJ-PJ, comme on dit.
Enfin, c'est...
Ouais, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en fait... Il y a 3 dimensions. Il y a une dimension... en fait, ce scénario explique les 3 états de Nord Amise. Vraiment.
D'accord.
C'est-à-dire, le premier, c'est un braquage. On est dans le policier. Il faut empêcher un braquage. Le deuxième, on est dans du policier, mais avec une affaire. Il y a de la magie au milieu. Il y a une affaire pédophile. C'est glauque. C'est tragique. Les joueurs ont été assez mal à l'aise. Yosei m'a clairement demandé d'arrêter une description. Ce qu'évidemment j'ai fait tout de suite, hein, c'était pas le but.
Alors, c'est dommage, Yosei s'est absenté peut-être pour aller aux toilettes, je ne sais quoi. J'aurais bien voulu qu'elle explique pourquoi.
C'était la description d'un enfant mort.
D'accord.
Violé.
Donc, on peut imaginer pourquoi. Yosei, voilà. Comme moi, a un enfant en bas âge et donc elle n'aime pas qu'on rigole avec ce genre
de choses.
Il avait 5 ans
et il était en train de décrire les tâches liées à un viol.
Ah, il se trouve que Yosei a une fille de 5 ans.
Voilà.
donc j'ai fait attention à pas aller trop vite dans ma description et qu'elle puisse m'interrompre pour m'arrêter tout de suite. Et la troisième, c'est la dimension humoristique. Ça a été un petit peu compliqué à comprendre. Mais il faut savoir que Biltoge, c'est pas de sa faute s'il redirigeait les dégâts parce qu'il savait pas. C'est un gars qui est passé, qui lui a offert un médaillon et qui fait ça. Et que lui, il était persuadé qu'il allait partir sur sa planète emmené par Jésus.
Mais sauf en tant que joueur, j'en suis convaincu,
la vision
mais mon PJ l'a pas
avait
perçu.
Eu, Effectivement, Jésus allait l'emmener sur la planète. Alors, j'ai toujours du mal à le dire. C'est Eknalumba.
C'est ambulance à l'envers.
C'est ambulance écrit à l'envers pour être lu dans le rétro.
D'accord.
Et okay. À la fin, il est emmené dans une ambulance par un ambulancier qui s'appelle Jesus.
D'accord, ok.
Voilà, et c'est ces trois dimensions qu'on explore. J'ai un petit peu eu de mal à rendre le côté humoristique, je pense, de la troisième.
Oh.
Le côté glauque de la seconde, c'est assez bien passé.
Ça s'est bien passé.
Oui, oui, dit Yosei. S'il prenait son micro, oui. Ce serait encore mieux. À défaut, prends le micro. Comme ça, voilà, quand tu veux dire quelque chose, on t'entend.
D'accord.
On parlait de toi pendant que tu étais absente parce que tu avais demandé à, comment dire, à Vincent d'arrêter une scène. Et du coup, on explique
une description.
Pourquoi. T'es comme moi en ce
pour
moment.
Pour la gamine morte.
T'es sensible,
ah oui.
T'es sensible à la description d'enfants à qui on fait du mal. T'es comme
oui.
Moi en ce moment. Oui,
c'est ça.
C'est normal. C'est normal. Je te comprends parfaitement.
Mais c'est pas un mal. Hein.
Mais, c'est bien, mais c'est, oui. Et c'est bien que tu aies accepté qu'elle le fasse. Et c'est très bien, je trouve.
Oui, c'est important.
Mais oui,
c'est le genre de jeu où il faut
oui,
protéger
mais...
ses joueurs.
Oui, 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 mais bon. On a des exemples de parties et des rapports de parties sur RPG.net, par exemple, qui ne sont pas tout à fait... Ouais, aux États-Unis, il y a des fous, parfois aussi. bref, Christophe Pépé nous racontait des exemples de mecs qui jouent avec des flingues posées sur la table pour... Comme ça, à tout moment, tu vois, ça peut... C'est bien ça.
Bah, ça calme les PJ.
Ouais, tu vois, c'est ça.
Ça évite le HRP.
C'est un petit peu
le point d'immersion négative est très clair.
Alors justement, et donc c'est là, tu embrayes indirectement Vincent sur ma deuxième question puisque tu décris monstre détail. C'est quand on n'est pas MJ à ce jeu, est-ce qu'on peut donner du sens à ce scénario? Parce que j'ai l'impression que toi, en fait, tu le reçois en tant que MJ un peu rétroactivement, tu en comprends le sens parce que tu connais ce qu'il y a caché derrière. Mais je me demande, alors je voudrais d'abord entendre d'abord entendre le ressenti des joueurs sur cette question et ensuite tu donneras le tien. Est-ce que, en tant que joueur, on accède à ce recul-là vis-à-vis du scénario? Est-ce qu'on le comprend? Parce que moi, en fait, l'effet que ça me fait, ce type de scénario en général, c'est que j'ai la sensation que de toute façon, je peux rien comprendre. Je vois le MJ qui s'amuse beaucoup. Lui, il a l'air de comprendre ce qui est amusant là-dedans. Mais moi, je m'amuse pas parce que, bah, de toute façon, je me dis, bon, bah voilà, il n'y a que lui qui sait, il n'y a que lui qui saura. Est-ce que ça vous a fait cet effet-là ou pas du tout? Au fur et à mesure, au contraire, tu vois, tu as compris que Ambulance, que le nom de l'étoile, c'était Ambulance à l'envers et tu as accédé comme ça progressivement au secret de l'univers. François, puis ensuite, je passe la parole.
Alors. Moi en tant que joueur et même mon personnage avons compris des choses au fur et à mesure, peu à peu. Alors pas tout, hein, mais des choses. Et c'est aussi ça qui fait que je suis très hype sur
donc,
ce.
Donc le jeu ne tombe pas dans cet écueil-là, quoi.
C'est-à-dire que après la première fois, j'avais rien bité à ce qui se passait, mais la deuxième, Bill se tue assez tout seul. Tout seul en fait, on l'aide un peu parce que en fait on n'a pas trop le choix et il se tue tout seul. Et après, et ben on voit que au niveau du croisement il manque un cadavre. Et là on sent qu'il faut faire quelque chose. Et en plus, il y a le shérif qui dit un truc, cet enfoiré de Bilto, je sais plus ce que c'est la phrase exacte. On sent qu'il faut se débarrasser de cet embouteillage.
Je le savais, c'est encore ce foutu Bilto.
Voilà, On sent qu'il y a quelque chose. Et ce personnage aux yeux de couleurs différentes, dont j'avais aucune idée que c'était le comte de Saint-Germain, mais que j'ai évidemment reconnu comme une sorte de classis en tant que joueur de sens. Mais que en même temps mon personnage a aussi senti comme une force contre laquelle il ne pouvait rien, ce qui l'énerve considérablement, mais qu'en même temps il ne voit pas quoi faire contre, donc il suit.
Il y a un nom, hein, vous savez, pour ces joueurs classiques là, ça s'appelle le MJPJ.
Oui.
C'est-à-dire que c'est l'incarnation du meneur de jeu dans le jeu à travers un personnage qui pourrait.
C'est-à-dire que moi, dans la deuxième.
Vincent a l'air de dire que c'est pas tout à fait ça, mais voilà.
C'est-à-dire que dans la deuxième partie, mon personnage a clairement pourchassé les limites du système pour que ce gars-là intervienne. C'est-à-dire que pendant qu'il y avait Biltoge qui était en train de torturer un gars à un moment, mon personnage s'est barré. Il a décidé de courir dans une direction random, d'aller loin et de voir si quelqu'un l'arrêtait. Évidemment, le gars aux
yeux. Il a vu.
Le gars en question l'a arrêté. Il a vu. Ok. Quelqu'un veut que je fasse quelque chose. Il est une entité supérieure. Mon personnage avait comme caractéristique la superstition déjà au départ. Donc il a déjà cet aspect.
Il était enclin à croire à
croire à des choses bizarre.
D'accord.
Donc, ok, il y a un truc, je verrai après. Pour le moment, il est trop fort pour moi. Et donc, il a suivi et il a essayé de comprendre ce qui se passait peu à peu.
Donc, du coup, tu as vraiment senti cette évolution. Progressivement, le scénar a pris du sens, etc.
Ouais, et puis,
et à travers ton personnage, c'est-à-dire que c'est pas uniquement...
Et puis, Bill Toge qui parle du fait qu'il va aller voir, enfin, qu'il va aller avec Jésus dans la jungle. Et puis, l'ambulance, la lumière...
Et il se souvient de tous les détails. Il est incroyable. Il a vraiment kiffé son scénar parce qu'il se souvient de tous les détails.
Le maître de jeu était très descriptif.
Quand on se souvient bien d'un scénar, c'est qu'on l'a bien aimé en général. Ouais, c'est intéressant.
Je suis content.
Ah non, mais c'était très bien. Moi, j'ai kiffé.
Yosei, sur cette question, est-ce que tu as senti une progression? Est-ce que tu as senti que progressivement le scénar prenait du sens? Ou est-ce que tu étais un peu perdu et tu t'es dit, à quoi bon?
Ça va être le même schéma que François, c'est-à-dire dans le premier sur le cambriolage, rien pané de ce qu'on devait faire. On se retrouve sur des gars armés dangereux, quoi, qui n'hésitent pas à tirer. Donc on se dit, il faut qu'on se sauve.
D'accord. Ouais.
Pas un seul moment, on se dit, faut peut-être qu'on aille leur parler pour savoir ce qu'ils font là.
Au
et
départ,
puis
tu comprends pas la mission.
Voilà.
Quoi. Ouais.
Tu pannes rien. Deuxième coup, c'est amené différemment et je pense que c'est fait pour. Il se retrouve seul dans une situation où il a besoin d'aide. Mmh. En plus, il y a quelque chose qui nous touche, donc un enfant en difficulté. Donc là, tu es amené à le suivre. Et du coup, effectivement, je pense que cette construction t'incite à te renseigner sur ce Biltoge ou à prendre conscience de ta mission aussi doucement. Mmh. Et oui, le second retour à l'accident, je peux appeler ça la réalité parce que c'est pas la réalité non plus, du coup. Enfin,
ouais, bien sûr. Ouais.
Qu'il manque
c'est
un corps,
la réalité.
Oui.
Une réalité.
Oui, c'est une nouvelle réalité, on va dire, pour nos personnages. Ils n'ont pas l'habitude encore. Mais voilà. Voilà, le fait qu'il manque un corps, ça devient évident, même si la troisième phase, du coup, même en sachant quoi faire, on s'est re-retrouvé dans... On savait quoi faire, enfin, on connaissait la finalité.
Bien sûr.
Mais dans une action qui était à nouveau très difficile à gérer. Et je trouve que celle du milieu, qui est du coup beaucoup plus facile à gérer en soi... pose un peu le truc et nous permet justement d'avoir cette évolution avec un rythme peut-être un peu moins soutenu.
Emmanuel, sur cette question.
Alors de toute façon, la première partie, elle sert un peu aussi de test, moi je trouve, alors pour beaucoup de jeux et beaucoup de scénarios, mais savoir à partir de quel moment nous, on risque vraiment de se prendre une bastose, savoir si le MJ est joueur, si on peut aller un petit peu à l'encontre de ce qu'il demande, ou si ça va être plutôt sur du rail, donc un peu un test de la gentilité du truc, enfin tout ça.
Bien sûr, ouais.
Après, c'est vrai qu'il y a un côté.
Agentivité, un positionnement, tout ça. Voilà. Ouais. Savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, quels sont nos moves, comme on dirait dans Apocalypse World, quelles sont les possibilités de jeu.
Mais bon, ça, c'est pas spécialement lié à ce jeu-là.
Non,
aussi.
Tout à fait.
C'est aussi un MJ qu'on connaît pas, etc.
Complètement. Donc,
et au final, après, le reste, c'est plutôt. C'est du puzzle. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un petit détail qui est donné, une couleur de chemise, une couleur d'yeux, un truc comme ça. On sait que cette pièce-là, il faut la mettre de côté.
Ouais, vous êtes dans une position d'enquête, donc de recherche.
Ouais. Finalement, et c'est vrai que pour un jeu qui est beaucoup dans l'action, c'est vrai qu'il y a l'aspect enquête.
C'est à la fois rythmé, en même temps c'est un jeu d'enquête, donc ça te pousse à chercher des secrets, et du coup ça te pousse aussi à essayer de comprendre le sens de l'univers. Donc du coup le jeu échappe à cette question du non-sens en te mettant dans une position de recherche. Et justement par rapport aux personnages, du coup, ça vous a pas choqué que des personnages qu'une tatoueuse, un mec qui fait du parcours qu'est-ce que tu faisais toi déjà, Pris?
C'était moi le tatouage, artiste de rue tatouage.
Et toi, c'était... Du coup, c'est toi que j'ai oublié, en fait.
Geek, grosso modo.
Ah oui, Geek, voilà.
Les pas les mafias chinoises.
Ah, c'est ça. Donc, du coup, pourquoi vous vous retrouvez à enquêter? Pourquoi vous vous retrouvez ensemble?
Pour
ces questions...
être honnête, on n'a même pas eu le temps de se donner nos professions. On s'est à peine donné nos prénoms. Hein.
D'accord, ok, c'est bien.
Donc, si on savait nos origines, nos prénoms, et on n'a pas eu le temps de se demander ce qu'on foutait là...
Donc, finalement, c'est sur la campagne que vous allez apprendre à vous connaître, quoi. Voilà. Ouais.
Okay. Et c'est peut-être là un peu la limite du truc, c'est que bon, bah forcément il y a un côté un petit peu artificiel et je sais pas, tu me détromperas peut-être, mais on sent très vite que ce qui va être important pour la suite et même pour la campagne, c'est plus l'état d'esprit de nos personnages et la façon de réagir aux péripéties enfin notamment sur l'aspect santé mentale et solidité que finalement leur métier et tout ça. Donc il y a un côté, moi je trouvais que la fiche de perso dès le début, je me suis dit putain, elle est vachement ésotérique et en fait nos personnages sont vachement ésotériques, le concret de leur vie est pas très important, ce qui est important c'est dans quel état d'esprit ça les met quoi.
D'accord,
ce qui est intéressant aussi à creuser et quelque chose que j'ai pas forcément beaucoup retrouvé sur beaucoup de jeux.
D'accord, ouais. Vincent, ton ressenti là-dessus ?
Je pense qu'en te parlant à toi, Rome, hein, tu vas comprendre, ce scénario, c'est un piège.
Mais je t'inquiète, je le vois venir à des kilomètres.
C'est un piège dramatique, et il y a beaucoup d'éléments pour ça. Il est construit en trois actes. L'acte du milieu, c'est l'acte... Dans le premier, on présente les personnages, donc ils ne peuvent pas réagir. Il y a éventuellement le côté, je suis un PJ, je suis un héros, il y a un braquage, je vais essayer de me mettre au milieu.
D'accord, ouais.
Mais s'ils réussissent, c'est un coup de chance. Le second est beaucoup plus lent, beaucoup plus détaillé, présente un des grands secrets du jeu, l'existence de la magie.
D'accord.
On sort du surnaturel, mais vraiment de la magie, avec un Biltoge qui se blesse pour accomplir des actes magiques.
D'accord. Ouais.
Alors c'est une présentation sans comprendre, hein, mais voilà. Et le troisième... qui les remet dans l'action pure et dure, où là, il faut qu'ils agissent. Et c'est un piège, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre, mais ils sont en train de se lier, et ils vont comprendre ce scénario dans...
Plus tard, ouais.
Plus tard dans la campagne.
D'accord, ok.
Ils vont comprendre ce qui s'est passé, ils vont comprendre pourquoi eux, ils vont comprendre pourquoi le comte de Saint-Germain, ils vont comprendre pourquoi ici. Voilà, tout ça, c'est expliqué et c'est cohérent.
D'accord, c'est intéressant parce que ouais, c'est vraiment très intéressant. Vraiment, d'accord, ok. Bah, j'ai envie de dire Yosei.
Pardon.
J'ai envie de dire Yosei. Tu vois, j'avais envie de dire Yosei.
C'est curieux comme envie.
Ça fait partie aussi du fait d'avoir envie de jouer, quelque part de cette frustration positive, j'ai envie de dire. C'est de savoir qu'on ne balance pas dans un univers, on se dit, on s'en fout, c'est n'importe quoi, de toute façon, c'est juste pour vous montrer que c'est loufoque, ça passe.
D'accord. Ouais.
C'est que cet univers qui est n'importe quoi, ben, tu cherches des secrets qui existent. Tu n'es pas là à te dire, à te débattre dans un univers où, de toute façon, le MJ peut te balancer n'importe quoi à la tête parce qu'on s'en fout si c'est cohérent. Oui, c'est n'importe quoi, oui, tu pannes rien, mais tu sais que si tu continues, tu peux découvrir ses secrets et ça, c'est motivant. Voilà.
Tu sais de quelle année il date, ce jeu ?
Non, c'est la deuxième édition, je crois qu'elle est de fin des années 90.
D'accord.
Mais la première édition est un petit peu plus vieille.
D'accord.
Voilà. Alors par contre, tu vois, je comprends pas pourquoi tu parlais par rapport à ce que vient de dire Yosei. Pourquoi tu parlais de comparaison avec Sens ?
Je sais pas. Non, j'en sais rien.
Hein, curieux. Non, moi,
une comparaison avec Sens, une histoire de cohérence qu'on sentirait à l'intérieur des trucs qu'on comprend pas. Je vois pas. Franchement, non.
Tiens, d'ailleurs, à propos de cohérence à travers des trucs qu'on comprend pas. Ah Yosei, tu veux l'ajouter quelque chose d'abord ? Non ? Non, d'accord. Je te voyais te saisir de ton micro comme ça. Pourquoi Unknown Armies ? Est-ce que tu peux nous donner la réponse ?
Non.
Non. Et tu peux pas nous la donner parce que tu sais pas ou tu peux pas nous la donner
parce que
je
ne le sais pas et je la suppute, mais c'est un des grands secrets du jeu.
D'accord, ok. Bon, donc il vaut mieux pas en parler. C'est pas eux l'armée inconnue, enfin, je pense. Je pense
que c'est qu'une partie de l'armée. En réalité, voilà. Alors, il y a quand même une chose que je peux dire.
Ah, d'accord. Ça y est, je
le monde est dirigé par le clergé de l'invisible.
D'accord.
C'est un mot fort qui est composé de 33 archétypes.
Pardon,
34, puisqu'il y a le comte de Saint-Germain qui est un membre permanent. D'accord. Mais bon, lui, c'est un peu particulier.
Ouais.
Et 33 archétypes.
Ouais.
Les personnages dans ce jeu. De par justement la gestion de la santé mentale, sont poussés à devenir archétypaux.
D'accord.
Et ils y sont poussés très très fortement. Le système encourage vraiment ça. C'est-à-dire que petit à petit, ils vont se rendre compte qu'ils vont avoir chacun leur spécialité. Et ils vont être obligés de se renforcer dans cette spécialité, sinon ils ne vont rien pouvoir faire.
D'accord.
Mais par contre, le reste, ils vont être obligés de le laisser tomber. Mais chacun va avoir sa spécialité. Et le but, c'est de transformer chacun... en un archétype.
En un archétype, ouais, d'accord.
Et en un membre de ce clergé invisible, donc un dirigeant de l'univers. Voilà. Mais voilà, il y a beaucoup de choses derrière.
Il faut prendre la place de quelqu'un. Oui, bien sûr.
Il faut savoir qu'il y a tout un panthéon qui est assez intéressant parce que assez original. des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. Hein. C'est un petit peu des coups à la vampire hein, ou beaucoup de personnages célèbres, pas les mêmes. Voilà. Notamment, il y a la femme volante qui est la première, je ne me rappelle plus de son nom, Angela Lockhart, je crois, ou quelque chose comme ça, qui était la première femme à traverser l'Atlantique en avion. Voilà, ce type de personnage, et on doit amener les personnages vers là. C'est marrant, le comte de Saint-Germain est là pour ça. Et
c'est vraiment, ça a l'air vraiment complètement barré comme jeu.
Ah, c'est complètement, mais
j'ai vraiment envie de le lire. Là.
Alors,
j'ai
puisqu'on est dans le spoiler, on peut y aller. Hein.
Ouais,
McDonald's est une conspiration qui s'appelle Mac Attacks, qui met de la magie dans les hamburgers parce que la magie doit appartenir à tous les humains.
Dis donc, Vincent, parce que tu as apporté ce jeu, parce que tu as dit que dans les podcasts de la cellule, on avait parlé de Nonarmise, on avait dit qu'il faudra le tester. C'était pas dans Psyrun le moment où Fabien délire complètement. C'était ça, hein?
Ouais. Je crois, oui.
Parce que là, ça me fait vraiment penser à cette partie, en fait. Quand McDonald's, le truc des shérifs qui avaient une force qui dépendait du nombre de likes qu'ils avaient sur Facebook et tout ça, c'était ça.
Exactement.
Ça, c'est complètement des délires qu'on peut retrouver dans Nonarmise.
Tout à fait. Il y a même un scénario de la campagne qui est basé sur un objet magique d'une puissance incommensurable qui se trouve être la milliardième capsule de Bud produite. Bud, c'est une bière américaine.
Oui, bien sûr, la Bud.
Et voilà. Donc, on est tout à fait dans ce délire-là.
Ouais, et puis, il y a aussi de la magie qui dépend de la quantité d'argent qu'on a reçu. Enfin, il y a des trucs.
Oui, il y a des tas de magies. Il y a des magies sexuelles, des magies sur la quantité de blessures, sur la quantité d'argent, sur certaines vidéos, sur les réseaux sociaux, sur le repas. Il y a plein de sortes de magies un petit peu originales et sympas.
Ouais. Ok. Bon, je pense que déjà, ces quelques réflexions, cette présentation aura donné envie à nos auditeurs de se plonger dans Unknown Armies, au moins en tant que joueurs, s'ils n'ont pas été au-delà de la bannière, et puis en tant que MJ, s'ils ont été au-delà des limites du voile.
Oui, je pense qu'effectivement, vu le sourire sadique de Vincent, à chaque fois qu'il nous écoute parler du jeu, je pense que le MJ doit vraiment, vraiment beaucoup s'éclater.
C'est un jeu pour... C'est un jeu pour, pour ça.
les joueurs au début fiche pas grand chose, mais ça vient très vite.
Ouais, et puis enfin, on s'éclate aussi.
J'ai pas eu l'impression que vous soyez ennuyé dans tous les cas. Donc
non,
voilà.
Non. Régalé.
À partir de là, c'est gagné. Hein.
Ouais, t'as pas le temps.
Ouais, j'ai envie de dire. T'as pas le temps, dit Yosei, t'as pas le temps de t'ennuyer.
Dans le très micro.
Merci. Juste quand même une anecdote, parce qu'il y a quelque chose que j'ai promis à mes joueurs de relater.
Oui.
C'est un événement un petit peu tragique.
Le taxi.
Il faut savoir que.
Ah oui, le taxi.
J'ai eu un grand moment de solitude de la part de deux de mes joueurs. Yosei a été grande,
merci.
Je tiens à le dire et à le préciser. C'est-à-dire que Yosei prenait un taxi alors que ses amis étaient en train d'essayer de la rejoindre.
Avec Bill pour rejoindre le pédophile, enfin la maison du pédophile.
Voilà, et qu'elle devait se rendre, elle avait l'adresse d'où se rendre, mais pas ses amis. Et donc elle s'est dit, il faut que mes amis puissent me rejoindre. Donc plutôt que d'arrêter le taxi et les laisser monter, elle a passé la tête par la fenêtre pour leur hurler l'adresse. Ça a été un grand moment de solitude.
Ouais, c'est les failles du jeu de rôle, quoi. Quand l'intelligence du personnage dépasse largement celle du joueur.
Ah oui, d'accord. Très bien. Merci. Bien ma foi sur cette anecdote pleine de sens et on voit qui développe
la view.
Toute la profondeur de Nonarmise. Je pense qu'il est temps de conclure et d'aller se coucher. Merci Vincent de nous avoir présenté Nonarmise. Merci Yosei d'avoir eu des idées très bonnes au cours de cette partie, de nous
avec
faire
plaisir.
Tant rigoler avec ton rire incroyable. Merci Emmanuel, merci François. À très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et surtout jouez bien. À bientôt. Salut.
Salut.